Fréquence protestante, le Midi Magazine, Nathalie Zanon.
Bonjour à tous. Alors, nous allons parler d'un sujet un petit peu controversé aujourd'hui, les compteurs Linky, qui sont en pleine installation en France et qui ne font pas l'unanimité. Alors, Monsieur Méric, vous êtes d'Enedis. Quelle est l'idée du compteur Linky au départ? Pourquoi est-ce qu'on a tous ces compteurs qui sont... Parce que les compteurs qui existaient avant étaient encore en état de marche. Donc, il doit y avoir une bonne raison pour les changer.
Bonjour, Madame Zanon. Merci d'abord de m'accueillir. Je suis très heureux de pouvoir justement aujourd'hui venir au micro de Fréquence protestante pour vous donner des éléments d'information qui me semble important de rappeler à vous-même et à vos auditeurs, même s'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Ce nouveau compteur qui est déployé depuis quelques mois, maintenant même 2 années pleines, il équipe déjà 8 millions et demi de familles en France de logements.
Il y a combien de compteurs au total en France?
Il y en a 35 millions.
35 millions.
Absolument.
Donc il y a 8 millions qui ont déjà été changés. Et donc dans les prochaines années, combien de temps?
Jusqu'en 2021. Et en 2021, l'ensemble des compteurs, 90% de l'ensemble des compteurs français, qui représentent donc 35 millions, seront changés pour ce qu'on appelle le particulier, le grand public. Hein. Ça ne concerne pas les industries, les grandes entreprises.
Alors, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'était que on ne le change pas simplement parce que les anciens compteurs sont trop vieux, puisqu'en fait, ils sont encore en état de fonctionnement, mais il y a une autre raison derrière. Quelle est la bonne raison qui fait que Enedis a décidé de... Ou qui a décidé d'abord? C'est pas forcément Enedis.
Alors, je vais répondre à votre question sur qui a décidé. Je voudrais simplement, si vous permettez, vous donner quelques éléments au préalable sur ce nouveau compteur. Parce qu'effectivement, il équipe aujourd'hui 8 millions, aujourd'hui précisément plus de 8 550 000 familles et foyers en France, autant de logements qui peuvent bénéficier donc de nouveaux services. Parce que c'est aussi cela, c'est être en accord avec ce que les clients, les usagers, les consommateurs attendent du service public de distribution d'électricité, quel que soit le fournisseur que chacun ait choisi. Nous, Enedis, nous adressons l'ensemble des clients, tous les clients de France, 95% du territoire pour être très précis, et quel que soit le fournisseur que le client ait choisi. Et bien pour chacun d'entre eux, avec ce nouveau compteur, c'est par exemple un aménagement simplifié. Aujourd'hui, lorsque vous aménagez dans un logement et que vous demandez une mise en service d'électricité, ça peut prendre jusqu'à 5 jours. Là, au plus tard, ce sera le lendemain, parce que le système va se téléopérer. De la même manière, lorsque vous avez des équipements supplémentaires chez vous et que vous avez besoin d'une augmentation de puissance, eh bien, ça peut prendre beaucoup plus. Ça prenait jusqu'à présent, effectivement, aussi, là, ça nécessitait un déplacement d'un agent. Ça pouvait prendre jusqu'à 5 jours. Ça sera le fait dès le lendemain. Et pour un coût beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. 10 fois moins cher, très précisément. Qu'aujourd'hui,
donc ça a l'air d'avoir
puissance.
Beaucoup d'avantages. Mais...
Alors, je vais en donner 2-3, si vous permettez, 2-3 autres de plus pour fixer le cadre, parce que je sens qu'il y a d'autres questions. Mais c'est important de pouvoir aussi dire que, parce qu'il a une nouvelle fonctionnalité de communication, ce compteur, de capacité de communiquer, ça va permettre de relever les compteurs directement. Donc sans dérangement, sans nécessité pour la moitié des clients de France de se rendre disponible pour le passage d'un releveur, d'être là sur une demi-journée et d'attendre que le releveur vienne relever la quantité d'électricité consommée.
Donc il y a à peu près la moitié des clients en France dont les compteurs sont à l'intérieur de chez eux.
Il y a la moitié des clients en France pour lesquels leur présence est nécessaire au moment du passage du releveur. En effet, il faut également noter que lorsqu'il y a des pannes, et ça arrive forcément régulièrement, le réseau peut toujours subir des pannes, eh bien ça va nous permettre de réparer plus facilement, de repérer les pannes beaucoup plus facilement, et même avant même qu'elles ne se produisent, parce qu'une panne ne se produit pas comme ça nécessairement du jour au lendemain, il y a toujours des symptômes, nous allons pouvoir les identifier sur le réseau et agir pour que les pannes ne se produisent pas ou les pannes se produisent moins. C'est aussi un meilleur service pour tous les clients.
Alors vous imaginez bien qu'à chaque fois qu'il y a un changement technique, je ne fais pas une émission sur le sujet. Je me suis sentie obligée de faire une émission, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas l'unanimité, je crois, sur ce que vous dites. Il y a pas mal de... Alors, j'ai invité pour en parler sûr. Aussi deux autres personnes. Mm-hmm. Donc, Monsieur Roy, vous êtes client, vous, d'Enedis, en
Moi,
fait.
Moi, je suis client d'EDF.
D'EDF.
Enedis est un prestataire d'EDF. C'est sa filiale à 100%, puisque de toute façon, il n'y a pas de... Mais moi, je suis client d'EDF. Il est signé avec EDF, il n'est pas signé avec Enedis. Enedis, aujourd'hui, est un prestataire, au même titre que n'importe quel autre prestataire, qui vient faire un certain nombre de choses.
Parce que c'est quand même assez convaincant ce que dit M. Méric. Si c'est un progrès, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas du compteur Linky?
Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première de ces raisons, c'est que ce compteur, d'abord, ce n'est pas, comme il est décrit dans mes conditions générales, ce n'est pas uniquement un système de comptage. C'est un capteur communicant. Et un capteur communicant, c'est un objet qui, pour moi, est intrusif. À partir du moment où, comme l'a dit M. Lassu à la télévision, et il s'en est expliqué, il l'a montré... Il y a des flashs de télévision, on peut savoir à un moment donné, quand vous ouvrez votre feu, quand vous ouvrez ceci, quand vous ouvrez cela. Moi, ce que je fais chez moi, ça ne regarde personne. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut savoir qu'un compteur communicant, c'est quelque chose, à partir du moment où ça communique et que moi, je n'ai pas d'action dessus, c'est-à-dire que je n'ai aucune possibilité d'arrêter quelque chose. Non, je peux pas arrêter le compteur. Je peux couper mon électricité, bien sûr, mais je ne peux pas arrêter la diffusion des informations. Or, normalement, il était prévu que les informations qui sont prises par ce compteur fassent l'objet, si vous voulez, d'un accord préalable du client signé de sa main. C'est ce qui est prévu dans les accords qui ont été signés avec EDF, avec la CNIL en 2014. Et moi, jusqu'à présent, que ce soit dans les lettres qui ont été envoyées par EDF, que ce soit dans les courriers qui ont été envoyés ensuite par Enedis et par les poseurs, à aucun moment il ne m'a été présenté un document de ce type. Ce que l'on vous dit, par contre, c'est que les éléments sont disponibles, une fois que vous êtes abonné, sur votre, comment dirais-je, sur votre page personnelle, à condition que vous en ayez une et que vous ayez la démarche de le faire, pour les gens déjà qui connaissent un petit peu l'informatique, qui connaissent un petit peu, je dirais, le web, et qui, en plus, sont abonnés à la DSL. Parce que ça, c'est pas le cas de forcément tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas d'abonnement, parce que...
Si vous dites il faut l'accord préalable, ça veut dire que c'est pas obligatoire d'avoir un long compteur Linky chez soi?
Alors, la notion du compteur Linky, faut être clair, légalement parlant, il n'y a aucun texte réglementaire, que ce soit dans la législation européenne ou dans la législation française, qui puisse nous imposer de quelque façon que ce soit la pose d'un objet communicant à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile qui communique des informations. Ça n'existe pas.
J'ai un avocat dans le studio,
je peux même vous dire qu'il y a un certain nombre de maires qui ont écrit à la Commission européenne, ils ont écrit à M. Junckers, et dans la mesure où on entend beaucoup dire que c'est sur décision de l'Europe que ces compteurs vont être déployés, etc., que c'est obligatoire, combien de fois on a entendu que c'est obligatoire, M. Junckers précise bien dans sa réponse que... Il a été laissé libre choix à l'ensemble des pays d'entreprendre ou non le déploiement de ces compteurs, et que...
Donc tous les pays d'Europe n'ont pas fait le même choix.
Tous les pays d'Europe n'ont pas fait le même choix. Certains l'ont fait, certains ne l'ont pas fait. Certains ont fait des études économiques poussées, d'autres ne les ont pas faites ou les ont faites à moitié. La France, par exemple...
Je crois qu'en Allemagne, ils se sont limités aux entreprises.
Oui, pourquoi? Parce que, si vous voulez, ils se sont aperçus que c'était les plus gros consommateurs et que c'était là qu'il fallait agir en priorité. Et en plus, ils se sont également aperçus que, si vous voulez, il y avait quand même un problème, exactement le même problème que l'on a ici, par rapport à tout ce qui concerne les données personnelles et les droits constitutionnels d'un citoyen européen comme un droit français, sur la divulgation que l'on peut en faire ou non. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, au niveau de l'Allemagne, puisque vous citez l'Allemagne, c'est qu'eux ont fait faire une étude par Capgemini Consulting, et Capgemini Consulting leur a dit, les compteurs actuels, qui sont des compteurs électromécaniques, ont une durée de vie d'environ 50 ou 60 ans, les compteurs Linky, c'est 10 à 12 ans, eux, les compteurs Linky, c'est 10 à 12 ans. Pourquoi? Parce qu'un circuit électronique aujourd'hui, c'est sa durée de vie moyenne. J'ai travaillé 45 ans dans informatique, je peux vous dire que des circuits électroniques qui vont au-delà des 10 ou 12 ans, sans avoir besoin d'être réparés, j'en connais pas beaucoup.
Je vais donner la parole à l'avocat, parce que j'ai posé la question, est-ce que c'est obligatoire ou pas Est-ce qu'il y a...
Si vous me permettez, par rapport à votre question introductive, c'est de faire quand même un petit retour en arrière et d'essayer de présenter le contexte. Parce que Enedis a foncé droit sur les avantages pour le consommateur prétendu du compteur Linky. Il faut quand même expliquer leur démarche, pourquoi ils le font. Ils ne font pas ça pour se battre pour les consommateurs, puisqu'ils sont rémunérés en fonction de la quantité d'électricité qu'ils délivrent aux consommateurs. Leur intérêt de dire vous allez pouvoir maîtriser votre énergie, il est très limité et il est contredit par un certain nombre d'autres éléments. Qu'est-ce que veut Enedis? C'est un certain nombre d'acteurs de l'industrie électrique aujourd'hui. C'est changer un élément fondamental qui est la nature de l'électricité. On veut changer ce qu'est l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité, c'est la délivrance d'une puissance, d'une source d'énergie. Et Enedis, avec d'autres, veulent en faire quelque chose à double tranchant, c'est-à-dire à la fois de délivrer la puissance, mais par le même moyen de soutirer des informations. C'est l'objet du compteur Linky. Alors aujourd'hui, on nous dit, il fait pas ceci, il fait pas cela, il est pas si méchant que ça, etc. Sauf qu'il est matériellement conçu pour aller extrêmement loin dans l'investigation des informations à l'intérieur du logement. J'en veux pour preuve le fait qu'il devait être équipé d'un filtre pour empêcher cela sur recommandation de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, et que finalement Enedis a fait le choix d'essayer d'imposer aux citoyens un compteur qui ne comporte pas ce filtre. Il y a un autre élément...
Je crois qu'il y a une raison pratique, c'est qu'il n'y a pas la place.
Enedis a fait le choix de rajouter un dispositif qui pollue sans ajouter le dispositif qui filtre. C'est son problème si elle n'a pas la place dans le boîtier qu'elle a conçu pour générer la pollution.
Un boîtier plus grand.
On aurait pu prendre un boîtier plus grand ou ne pas diffuser cette méthode qui est bien au-delà, qui va bien au-delà des objectifs annoncés par Enedis. Parce qu'il y a un autre élément qui est fondamental dans la stratégie d'Enedis, c'est qu'ils veulent, comme on l'a fait par exemple avec les voyages en train, on veut rendre une quantité de choses disponibles, on veut la rendre facturable plus cher quand plus de gens en veulent. C'est-à-dire que comme on a annoncé pour le train au départ que ça allait permettre d'avoir des places moins chères quand les gens prendraient moins le train, on a aussi vu que ça allait permettre par exemple d'augmenter 5 à 10 fois le prix du billet de train au moment où tout le monde le veut. Et ça va créer une catégorie de population qui va être subordonnée à ces choix tarifaires que Enedis laisse au libre cours aux fournisseurs pour nous dire... Vous consommez à des heures où tout le monde en veut. Nous, on n'a pas envie d'investir dans l'augmentation des capacités de notre réseau. On veut juste délivrer plus de courant sans investir dans des câbles plus gros. Et donc, on a décidé de vous facturer plus cher quand plus de gens en veulent. Et ça, ça paraît une stratégie qui n'est pas digne d'un service public. Et c'est pour ça, je vous répondrai après sur les questions juridiques, bien sûr, s'il y en a. C'est pour ça que nous, il y a un certain nombre de citoyens qui ont décidé aujourd'hui, on est, je crois, à 761 ou un petit peu plus, qui ont décidé d'agir en justice contre Enedis pour se défendre contre les différentes violations du droit qui sont commises dans cette affaire, que ce soit sur le terrain de la liberté de choix du consommateur. Déjà, tout ça, tout simplement, la liberté de choix du consommateur, la protection de la santé...
On m'a toujours pas répondu. Qui est-ce qui a décidé ça? Qui est-ce qui a pris la décision de...
Alors, qui a décidé de cela? C'est très intéressant comme question.
Vous avez posé comme question tout à l'heure. Qu'est-ce qui a décidé, en fait, ça?
Je vais y répondre.
Parce que Enedis ne fait que faire ce qu'on lui a demandé, j'imagine.
Bien sûr.
Évidemment.
Enedis est le service public de la distribution d'électricité en France, d'accord, et répond à un certain nombre d'obligations aussi. Je voudrais revenir sur ce que j'ai entendu jusqu'à présent, parce que c'est normal, beaucoup d'informations ont été données. Je voudrais plutôt dire de désinformation, et je voudrais apporter des éléments un peu probants, si vous permettez. D'abord parce que il y a quelque chose qui lie chaque client à son fournisseur, c'est un contrat, c'est normal. Et Monsieur Roy y faisait référence au début de son intervention. Mmh. Les conditions générales de vente qui sont généralement signées par tous les clients. Qui
le vous coût lient, des conditions si générales de
monsieur,
vente.
Si vous permettez. Merci beaucoup, je vous ai écouté. C'est ça qui vous lie à votre fournisseur. Et donc aussi, dans les conditions générales de vente, si vous les avez lues, je pense que vous avez fait.
Les miennes de 93. J'ai trois pages. Ouais, vous en avez 24.
Toutes sont pareilles. Toutes sont pareilles, je vous assure.
Et puis non, toutes ne sont pas pareilles, monsieur.
Pas du tout.
Je vous lis simplement ce qui est
écrit. Il faut notifier pour qu'elle puisse être opposable.
De quelle date
Oui.
Elles ont toutes les mêmes prérogatives au titre de la distribution. Et je vous dis ce qu'il en est sur la partie distribution d'électricité, mais simplement, elle prévoit ces conditions générales, le libre accès des agents technicien auprès du système de comptage, du compteur, pour l'entretenir, le renouveler, le remplacer autant que de besoin. C'est prévu, c'est normal. D'ailleurs, si vous êtes en panne,
il est bien
normal qu'on accède au système de comptage pour pouvoir le remplacer.
C'était ma question initiale, c'est que les compteurs ne sont pas obsolètes, ceux qui fonctionnent actuellement. D'ailleurs, ça coûte combien? Est-ce qu'on a calculé le...
Ah, attendez, il y a plein de questions. On va essayer d'ordonnancer, si vous permettez, parce que je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit. Je vous répondrai, bien sûr, sur le coût global du projet, si vous le souhaitez. Mais je voudrais quand même revenir sur le caractère... Vous me posiez la question, mais qui a décidé quoi? Je crois que c'est important de savoir qui a décidé quoi. En effet, parce que c'est un système qui est régulé. Il y a une directive européenne qui date de 2009 et qui prévoit qu'en Europe, on a beaucoup parlé d'Europe, les consommateurs puissent avoir accès aux informations en temps quasi réel sur leur consommation en termes d'énergie et de fluide, en tant que quasi réel, de façon à mieux la maîtriser. C'est ça l'objet de la directive européenne. Eh bien, la déclinaison qui a été faite en France, elle a été faite dans le cadre du Code de l'énergie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on n'est pas là pour faire les détails. On peut rentrer, monsieur est avocat, s'il le souhaite, rentrera dans les détails techniques et juridiques. Et donc, la déclinaison en a été faite. Et en France, on a ce compteur qui s'appelle le compteur Linky, qui est un compteur donc communicant. Et il a cette fonctionnalité par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, madame, cette fonctionnalité que n'ont pas les autres compteurs, l'ensemble des autres compteurs, quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent, ils ne communiquent pas.
Et
c'est cette fonctionnalité de communication qui apporte l'ensemble des nouveaux services qui vont permettre à tous les Français, à tous les clients, d'accéder à ce que je vous disais tout à l'heure.
C'est sûr qu'à première vue, ça paraît un progrès.
Bien sûr, à une meilleure façon de consommer aussi. Parce que, avec cela, et monsieur le disait tout à l'heure, évidemment, nous pourrons avoir des informations en temps quasi réel dès le lendemain sur notre consommation. À la fois, bien sûr, sur le compteur lui-même, comme c'est le cas aujourd'hui. Chacun peut lire sur les anciens compteurs, quelles que soient les générations, le nombre de kilowattheures qu'il a consommé chaque jour et qu'il le voit défiler. D'ailleurs, sur les équipements, les derniers compteurs, les compteurs électroniques qui comportent de l'électronique depuis très longtemps, indiquent la quantité d'électricité que chacun consomme. Avec cette nouvelle génération de compteurs, nous allons chacun pouvoir disposer d'un espace réservé sur le site d'Enedis, un espace client gratuit, sécurisé, dans lequel on va pouvoir voir chaque jour ce que l'on a consommé la veille, et donc l'avant-veille, la semaine, le mois, la saison, l'année, et voir ainsi l'évolution de sa consommation pour mieux la maîtriser. C'est intéressant à la fois au niveau, je pense, d'un foyer,
d'une famille,
mais aussi
d'une collectivité.
Est-ce
qu'on peut décider, par exemple, si... Moi, je vous posais la question du gaspillage, parce que ça choque un petit peu mon côté... environnemental, enfin ça m'embête de jeter, ils appartiennent
ils à qui? Ils ne sont pas jetés, ils sont tout recyclés, ils appartiennent au réseau, vous savez que on ne va pas rentrer dans les détails, mais le réseau...
Le propriétaire du compteur, c'est pas moi,
c'est
compteur.
Pas vous,
c'est ma commune,
c'est pas Enedis non plus.
C'est qui?
C'est le concédant du réseau, c'est-à-dire ce sont, en général, par exemple ici c'est la ville de Paris, mais dans d'autres endroits en France, c'est le concédant, ce sont des syndicats départementaux d'électricité en général. Je veux bien rentrer dans ce détail-là, mais c'est important de préciser aussi que, pour répondre à votre question madame, que les anciens compteurs sont tous recyclés. Ils sont complètement recyclés. Il y a des systèmes de recyclage. Et tout est fait pour que les parties métalliques soient séparées des parties plastiques et que tout ça rentre dans un système de recyclage.
Alors, est-ce qu'on peut avoir une réponse par rapport à la propriété de ces compteurs?
La question, ce n'est pas la propriété des compteurs. La question, c'est, quelle que soit la propriété d'un objet, s'il cause un tort à autrui, est-ce qu'on peut l'utiliser, le poser de force dans un domicile au prétexte de conditions générales de vente, qui, monsieur ne l'a pas dit, sont postérieures à l'amplification du mouvement des gens qui refusent les compteurs Linky. Et Enedis a simplement oublié une étape fondamentale, c'est que pour les rendre opposables, il faut qu'elle les notifie aux consommateurs. Donc aujourd'hui, ces conditions générales de vente, elles n'ont absolument aucune valeur juridique.
Alors, vous avez 700 clients déjà. C'est parce que... Quels sont les problèmes, en fait? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais apparemment, s'il y a des gens qui s'opposent au compteur Linky, ce n'est pas forcément tous des réactionnaires. Ça peut être aussi des gens qui, au départ, n'étaient pas forcément contre et qui ont trouvé des problèmes après.
Absolument. Nous, on défend des gens qui, pour la plupart, sont absolument pour la transition énergétique et ne veulent au contraire ne pas se la faire confisquer par un acteur monopolistique qui a 95% du marché, qui est Enedis. Les gens que l'on a veulent protéger l'environnement, ils veulent protéger la santé. Donc effectivement, vous l'avez relevé spontanément, ça suppose de ne pas détruire ce qui fonctionne. Quand bien même on séparerait telle ou telle partie, c'est quand même une destruction d'un bien qui fonctionne pour recréer des circuits électroniques qui sont conçus pour durer, selon les versions, parce que c'est vrai qu'il y a des composants à l'intérieur qui sont sont très périssables, comme une pile qui est soudée dessus et qui a une durée de vie extrêmement limitée de 10 à 15 ans, mais Enedis nous dit 20 ans. 20 ans par rapport à un compteur de 60 ans, c'est 3 fois moins.
Monsieur, je dois m'inscrire en faux par rapport à ce que vous dites, parce que vous ne connaissez pas contradiction. Les aspects techniques, ça se voit très bien du compteur, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas dire.
On va vous répondre également sur les aspects juridiques, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir vous répondre notamment sur la directive, monsieur. Vous avez invoqué cette directive il y a 30 secondes.
Ce que vous dites là n'est pas la
vérité. Je vais reprendre la parole un petit peu pour...
Merci,
madame. Non, mais je... Alors d'abord, j'en profite pour dire à nos auditeurs que nous sommes en direct, si vous ne l'aviez pas compris. Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions, si vous êtes très content de mon compteur Nikki, si au contraire vous êtes mécontent, n'hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions au 01 45 72 6000. Donc je vais juste vous laisser terminer, monsieur Durand, maître Durand.
Je vais finir sur deux points, un point juridique et un point technique pour pouvoir servir mon contradicteur. Sur le plan juridique, la directive ne dit absolument pas qu'il faut déployer les compteurs. Ça a déjà été évoqué par le client qui est ici présent. Et la directive nous dit que les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesures qui favorisent la participation active des consommateurs et non pas la subordination des consommateurs à un nouveau type de compteur qui serait un modèle unique imposé par un prestataire monopolistique. Sur le plan technique, allons-y.
Parce qu'on a entendu dire beaucoup de choses. On a entendu dire qu'il y avait des incendies, qu'il y avait des... Est-ce que ça c'est vrai ? Qu'il y a plus... Est-ce qu'il y a...
Bah, écoutez, sur deux ans, de par la voie de presse, parce que je m'y suis intéressé, uniquement sur les articles de presse. Je ne sais pas ce qui se fait en dehors de ça, mais uniquement par la presse, en deux ans, c'est-à-dire sur 2016-2017, on a relevé plus de 400 incendies en France. Alors, des gens vont
dire
oui.
Est-ce que c'est plus qu'avant ?
Oui, c'est plus qu'avant. Parce que, si vous voulez, moi, je peux vous dire que j'ai une dame que je connais bien dans ma commune. Une dame qui a 87 ans. Donc, elle, on lui a installé un compteur Linky au printemps. Au moment où l'hiver est arrivé, elle a mis son chauffage. Le compteur Linky et le disjoncteur qui se trouvait au-dessus ont été intégralement détruits par un incendie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Le poseur est arrivé le lendemain. Le poseur, j'ai les photos, monsieur, j'ai les constats, si vous voulez. Comme vous avez l'air de sourire. Moi, je ne trouve pas ça drôle auprès d'une dame de 87 ans qui est traumatisée et qui a passé 6 mois à l'hôpital derrière. Attendez, je vais terminer.
Je vais juste le terminer.
On a ce problème-là. Déjà, il y a un double problème de droit. D'abord, il faut savoir que, de par ce que dit le Conseil d'État, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative de France, les compteurs sont des biens de retour qui appartiennent aux mairies. Les mairies concèdent la gestion à un syndicat de l'énergie, mais en conservent la propriété. Est-ce que c'est bien clair, ça ? Parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi. Ça, c'est la décision du Conseil d'État.
Est-ce que ça veut dire que les communes peuvent s'opposer au déploiement du compteur ?
Non. Elles ne peuvent pas s'opposer. Pourquoi ? Parce que chaque contrat est un contrat qui est passé entre un fournisseur d'énergie qui est EDF et d'autre part, le client. Donc le maire, lui, ne peut pas s'interposer là-dessus. Par contre, en tant que maire, s'il constate sur sa commune des violations de domicile, du harcèlement, des choses comme ça, qui sont des troubles à l'ordre public notoires, il peut, dans le cadre, effectivement, de ses pouvoirs de police, intervenir et demander à ce que ces gens-là arrêtent de faire ceci ou de faire cela. Bon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette dame, lorsqu'elle a eu son incendie, les poseurs sont venus le lendemain. Alors, bien entendu, il y a eu l'incendie, mais il a fallu que le fils téléphone, parce que, contrairement à ce qu'on dit, il y avait bien un compteur Linky, mais personne ne s'est aperçu que le compteur, il fonctionnait plus. Hein. Donc là, très curieusement, alors qu'on est censé avoir les informations en temps réel, cette dame-là, c'est son fils qui a téléphoné. Les poseurs sont revenus le lendemain, mais curieusement, ils ont embarqué le compteur et ils ont embarqué le disjoncteur calciné. On n'a jamais pu les récupérer. Alors déjà, je peux vous dire qu'à partir du moment où on embarque un compteur qui, de toute façon, du fait qu'il est la propriété de la commune, reste quand même un bien public, c'est un bien de retour, une séquestration de bien public avec recel, plus derrière le fait d'embarquer, si vous voulez, un disjoncteur qui appartenait à la propriétaire, puisque c'est elle qui a fait faire l'installation électrique, ça c'est un vol qualifié par contre.
Est-ce qu'on a su ce qui s'est passé dans tous ces incendies ?
On ne sait pas, parce qu'à chaque fois on enlève les trucs, il n'y a pas d'expertise, on ne peut pas faire d'expertise, parce qu'à chaque fois on les récupère. Donc,
est-ce que vous pensez, monsieur Méric, que ça peut être... Alors j'imagine que les employés d'Enedis n'étaient pas suffisants, donc vous avez dû faire appel à des intérimaires. On met en cause parfois leur professionnalisme. Est-ce que ça peut être dû à ça ? Est-ce qu'il y aurait eu plus d'erreurs dans la pose parce que ce seraient des personnes moins habituées, en fait ? Parce que vous avez fait appel à des intérimaires pour...
Non, c'est ce que dit la CRE, ce que vous annoncez.
Qu'est-ce qui pose, en fait, les
compteurs ?
C'est
ce que dit la Commission de régulation d'énergie, ce que vous annoncez, qu'il y a un problème de formation sur les poseurs.
Est-ce qu'il y a effectivement un problème de formation sur pour les poseurs ? Qui sont ces poseurs, en général ? Ce sont des salariés,
aujourd'hui, il y a 3200 techniciens et techniciennes partout en France qui posent chaque jour à peu près 29 000, 30 000 compteurs. Et qui sont des grands professionnels, qui sont formés dans un geste technique professionnel, qui ont toutes les qualifications et qui, ces qualifications, sont contrôlées à la fois par Enedis, bien sûr, et par des organismes extérieurs. Donc, ils ont tous les qualifications requises et l'aptitude professionnelle pour faire le geste technique du remplacement d'un compteur. Et je veux ici, par rapport
donc,
à ce que vous dites, je veux
là.
Ici, madame, par rapport à tout ce qui a été dit par ces messieurs en face, dire à ceux qui pourraient écouter dans leur voiture, nos techniciens, la solidarité d'Enedis par rapport à la suspicion que certains font peser sur eux.
Moi, en tant qu'Enedis,
madame, je réaffirme publiquement ici mon soutien plein et entier à l'ensemble des techniciens qui, tous les jours, font face à des désinformations, voire des diffamations telles que je viens de l'entendre. Je veux le dire et le redire. Et pour répondre à votre question, je voudrais aussi vous dire que nous faisons, bien sûr, des enquêtes après la pause. Nous enquêtons systématiquement auprès de chacun des clients pour voir comment ils l'ont perçu. Nous avons un taux de satisfaction de plus de 90%. Et un autre indicateur que nous suivons de façon très précise, c'est le taux de réclamation. Et le taux de réclamation de nos clients lorsqu'ils ont été concernés par la pose d'un compteur Linky est inférieur à 0,7%. Ce sont des chiffres qu'il faut quand même bien rappeler. Qu'il faut bien rappeler parce que c'est important. C'est sûr que dans la mesure où vous travaillez bien sûr à Enedis, vous avez les chiffres.
On a les chiffres d'un syndicat d'énergie est le syndicat d'énergie d'André-Loire qui nous dit qu'il y a 59% en 2011, avant même que énormément de personnes refusent le Linky, et vous venez de le concéder finalement en nous disant que les techniciens étaient confrontés à des difficultés sur le terrain. Il y a beaucoup plus de taux de refus que vous ne le prétendez. Le ciel nous dit 59% de personnes qui trouvent que Linky n'est pas utile. Donc le 0,3% ou le 3%.
Vous parlez de chiffres de 2011. Le déploiement des compteurs Linky a commencé le 1er décembre 2015. Je suis désolé, je suis venu ici.
Et depuis, la contestation est très importante.
Je suis devenu. Vous me parlez de chiffres de 2011. Et moi, je vous dis que ça a commencé en 2015. Soyons sérieux, monsieur.
Soyons sérieux et regardons l'évolution de la contestation. Aujourd'hui, malgré les partenariats que vous avez avec un grand nombre de presse régionales, vous n'arrivez plus à y faire face. Les journalistes parlent dans toute la France des difficultés rencontrées sur le Linky. Et vous vouliez aller sur un terrain qui est technique. Allons-y, monsieur. Concédez aux Français que vous allez diffuser 36 nouvelles gammes de fréquences dans les foyers français, plutôt que de prétendre, comme l'ont fait vos collègues ou comme vous l'avez fait vous-même, soit que Linky n'émettait pas beaucoup plus, soit que Linky n'émettait rien, soit que Linky était tout à fait inoffensif.
Alors, c'est vrai qu'on parle un petit peu des problèmes de santé. Est-ce qu'il y a effectivement des émissions, monsieur Méric ? Est-ce qu'il y a des changements de fréquences ? Est-ce qu'il y a une pollution des fréquences ? On dit qu'il y a une pluralité. Et pourquoi est-ce qu'il y avait des filtres qui étaient prévus au départ et qui ne sont pas là ?
Il y a sur l'ensemble des sujets qui ont été traités, parce qu'il y a des éléments que je voudrais rapporter. Je vais vous répondre, bien sûr, sur les aspects sanitaires. Je crois que c'est important. Mais ces messieurs ont parlé aussi de tous les aspects vie privée, confidentialité, et on n'a pas eu l'occasion d'en reparler depuis leurs affirmations. Je voudrais rappeler sur ce premier item, si vous permettez, qu'au titre de la vie privée, l'ensemble du système, qu'est-ce que Linky fait ? Linky, il relève la consommation d'électricité que vous avez dans une journée.
C'est faux.
Il s'agit de cela et uniquement de cela.
Mais uniquement pas conçu pour ça.
Monsieur, je ne vous interromps pas. Et je vous remercie de ne pas m'interrompre. D'accord ?
Bien sûr que si.
Attendez, on vous parlera à votre tour.
Merci,
Méric.
Merci. Donc, au titre de ce qu'on appelle la confidentialité, la vie privée, l'objet du compteur d'électricité, c'est de compter l'électricité consommée en kilowattheure et de la transmettre chaque jour pour que chacun puisse en disposer. Et l'opportunité qui est donnée à chaque client en France disposant d'un compteur Linky, c'est s'il le désire, s'il le souhaite, de pouvoir, à sa demande, et M. Roy l'évoquait tout à l'heure, et c'est une demande explicite qu'il doit faire sur son espace client, de pouvoir disposer de ce qu'on appelle la courbe de charge. Et cette courbe de charge, c'est-à-dire la consommation qu'il a, non pas tous les jours, mais de façon plus détaillée au sein de la journée, s'il la souhaite, il peut l'obtenir pour son propre usage, et s'il le souhaite aussi, pour la transmettre à un tiers de confiance comme son fournisseur. fournisseurs. Donc soyons très clairs sur tout cela, et d'ailleurs très encadré par la Commission nationale informatique et liberté.
Monsieur Roy, qu'est-ce qui vous inquiète dans...
recommandations que nous suivons scrupuleusement. Et je reviendrai, si vous permettez, aussi sur les aspects sanitaires.
Sur ce problème-là d'abord. Monsieur Roy, dans ce qui est dit, ces données-là, qu'est-ce qui vous embête que ça soit...
Déjà, je peux vous dire que ça, vous voyez, ce document-là, c'est le pacte de conformité qui a été signé par EDF en 2014. Normalement, on est censé faire signer ceci au client, et il est précisé que cette case ne doit pas être précochée. Or, ce papier-là, c'est précisé... Non, mais attendez, le pacte de conformité, c'est un document officiel. Il vient de la CNIL, c'est signé par EDF. Normalement, vous devez faire signer ça au client, ce document-là. Vous voyez ? Ça doit être rempli par le client et ça doit être signé de sa main. Sans cette signature, vous ne pouvez rien obtenir. Tenez, c'est pas moi qui l'ai.
Alors,
enfin,
j'ai justement Véronique de Paris qui nous a téléphoné au 01 45 72 6000 et qui dit « J'ai été démarchée, j'ai trouvé les méthodes d'Enedis inadmissibles. On a l'impression que c'est obligatoire alors que non. Il y a beaucoup d'insistance. »
Voilà. Alors, je reviendrai sur deux choses. D'abord, il y a la notion du harcèlement qui est absolument inadmissible parce que vous avez du harcèlement téléphonique et puis du harcèlement physique également. Moi, j'ai des voisins qui ont eu droit, donc on en reparlera tout à l'heure. Mais effectivement, c'est le cas. Pour revenir en ce qui concerne les poseurs, voilà aujourd'hui une annonce faite pour recruter des personnes pour faire de la pose du compteur Linky. Qu'est-ce que l'on dit ? Ça a été publié il y a quelques jours, c'est sur Montluçon. Pour la filiale d'énergie, une entreprise basée à Clermont-Ferrand, vous rejoindrez l'équipe de poseurs pour le marché de Montluçon, vous participerez au déploiement des compteurs électriques Linky. L'expérience demandée est de 0 à 2 ans. Hein. C'est ce qu'ils appellent les connaissances approfondies, a priori. Vous bénéficierez d'une connaissance spécifique pour acquérir les connaissances de base permettant de préparer et de réaliser dans les règles de l'art et en toute sécurité des activités spécifiques sous tension du remplacement des compteurs. Vous travaillerez seul et vous devrez effectuer un nombre d'installations par jour. C'est-à-dire que les gens sont payés à la pause et ils n'ont pas forcément la formation. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est votre annonce de recrutement. Donc vous pouvez pas contredire ce que vous avez vous-même écrit. Donc pour moi, ces gens-là, ils n'ont pas la formation requise. Je vous rappelle quand même que quelqu'un qui a la formation requise, c'est au minimum 3 ans d'expérience avec un certificat d'aptitude derrière, ce qu'on appelle un CAP, qui est donné. Alors là, ce sont des gens...
Ça pourrait expliquer effectivement peut-être la recrudescence des incendies si certaines personnes...
Voilà. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, absolument pas. Il n'y a pas d'incendie, parce que monsieur tout à l'heure a affirmé des choses, a parlé de la dame qu'il connaît dans son village.
Vous voulez voir les photos ?
Si vous voulez, après l'émission, vous pouvez me montrer, je vous en prie. Mais simplement, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'incendie lié à Linky. Il y a en France, il faut que chacun le sache, c'est important de le dire.
Ils se contredisent.
Il faut...
Attendez, laissez les autres parler.
Si vous voulez faire l'émission tout seul, monsieur, il n'y a pas de sujet.
Il faut
que chacun sache qu'il y a en France des incendies, tous les jours, d'origine électrique. À 97%, c'est de l'origine, elle est sur le réseau intérieur du logement. D'accord ? Parce qu'il y a malheureusement des prises mal branchées, des fils qui sont mal
serrés. Ce qui nous intéresse, c'est les incendies de compteurs.
Il n'y a pas d'incendie de compteur parce que le compteur Linky ne prend pas spontanément feu. Ça, c'est ce que veulent effectivement faire croire un certain nombre de gens. Mais je peux vous assurer que le compteur ne prend pas feu spontanément. L'origine des photos que vous montrez, monsieur, regardez où est l'origine du noir. Elle n'est pas sur le compteur. Évidemment que vous pouvez, à travers ça, faire véhiculer des sentiments de peur, de crainte, de haine. Mais je peux vous assurer que lorsque vous investiguez techniquement une telle installation, l'origine, comme malheureusement...
Investiguer, monsieur ? Encore faut-il leur laisser la possibilité aux experts.
Je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît.
On va essayer de laisser parler, monsieur Eric.
Je peux vous assurer que l'origine n'est pas là et qu'il faut que chacun ait conscience qu'on doit faire attention à sa propre installation électrique, avec compteur ou sans compteur. Il y avait, avant les compteurs Linky, malheureusement, déjà des incendies d'origine électrique dans les installations particulières. Et il y en aura après. Ça n'a aucun lien avec Linky. Je veux rassurer nos auditeurs parce qu'il ne faut surtout pas de désinformation sur ces sujets-là.
C'est important dans ce contexte parce que actuellement il est question de fake news et il faut prendre conscience que par rapport à des lois qui sont en cours d'être prises sur ce terrain-là, il faut prendre en compte le fait qu'Enedis a diffusé dans ce dossier un nombre de fake news. Vous en faites partie. Vous faites partie des gens qui ont diffusé de fausses informations telles que le compteur n'émet pas d'onde. On en a une autre, c'est ce qui vient exactement d'être fait par mon contradicteur. C'est de prétendre vendre en attirant l'attention du consommateur sur d'autres aspects que le changement du compteur Linky, de par sa pose, notamment de par un mauvais serrage des câbles, et ça, ce sont les collègues d'Enedis qui le reconnaissent eux-mêmes, ça peut provoquer
des
incendies.
Vous avez des collègues d'Enedis,
monsieur ? Ce sont vos collègues d'Enedis qui le reconnaissent eux-mêmes, ça peut provoquer des incendies de compteur. C'est reconnu. Il y a même des documents. C'est documenté pour le procès. Un autre élément pour répondre quand même à la question de l'auditrice qui vous a sollicité, c'est que quand on appelle 8 fois par jour quelqu'un au téléphone pour essayer de lui imposer un produit, j'aimerais quand même rappeler que l'article L121.6 du Code de la consommation nous dit qu'une pratique commerciale est agressive lorsque, du fait de sollicitations répétées et insistantes, elle est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur. Et ça, ce sont des pratiques qui ne sont pas admissibles.
Alors, j'ai d'autres questions. Jean de Fontainebleau demande, peut-on faire valoir la non-réactivité, c'est ça ? De la loi pour refuser
rétroactivité,
voilà, c'était mal écrit. Rétroactivité de la loi pour refuser le compteur. Et donc attendre la fin du contrat.
On peut se contenter des lois existantes, elles sont largement suffisantes par rapport aux pratiques commerciales qui sont mises en place par Enedis. Il n'y a pas de difficulté, à mon sens, et le tribunal en jugera, pour refuser le compteur Linky, qu'il ait déjà été posé ou qu'il ne soit pas encore posé.
Je veux simplement vous rappeler et vous redonner
attendez,
des chiffres.
Je voudrais terminer avec les questions de Jean.
Vas-y, je
m'en prie. Deuxième question, il dit qu'il manque d'informations sur la puissance du circuit communicant et sur les normes. J'ai aussi une question d'une dame qui demande que faut-il faire pour revenir à l'ancien compteur. Donc, est-ce que c'est possible une fois qu'on a eu un compteur Linky ? Non, j'imagine que c'est pas possible de revenir à l'ancien compteur.
Alors il y a une différence de point de vue. Pour Enedis, Bernard Lassus devant l'Assemblée nationale dit non, il n'y a pas de procédure de refus auprès de nous, évidemment. C'est pour ça que nous on saisit la justice pour des citoyens qui ne veulent pas de ce compteur, soit qu'ils se sont vus imposer de force, soit qu'ils le refusent dès le départ.
Alors il faut savoir quand même, puisqu'on parlait de la non-rétroactivité, il faut savoir que tous les contrats que vous signez sur le plan national, sont protégés par l'article 2 du Code civil, qui dit « La loi n'est pas rétroactive, votre contrat est donc valide par rapport aux conditions générales et à la législation qui est en place à la date de la signature. Tout ce qui est voté après, que ce soit des décrets, des lois, etc., etc., n'a aucune incidence sur le contrat lui-même. Vous imaginez si demain l'article 2 disparaissait, on aurait, par rapport aux lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, on aurait des gens, tous les jours, des gens dans les tribunaux de commerce en train de dénoncer des contrats commerciaux, des
soucis,
etc.
Donc si les conditions de vente ont changé depuis le moment où on l'a
changé... Si vous n'avez pas signé d'avenant, on ne peut pas vous imposer ce compteur, parce que de toute façon, il est technologiquement pas conforme, mais en plus, il comporte des aspects qui ne sont pas prévus contractuellement. Et comme la loi interdit de modifier unilatéralement l'aspect d'un contrat, vous ne pouvez pas, Enedis ne peut pas unilatéralement modifier un contrat sans avoir votre aval. C'est pas possible, la loi l'interdit.
Et donc si on veut refuser, il suffit de
normalement,
faire une lettre.
Moi j'ai envoyé une lettre recommandée. On a voulu me forcer la main, les poseurs ils sont repartis encadrés par les flics, et moi depuis, on ne m'a plus embêté. J'ai reçu là, il y a deux jours, de la part d'EDF, une facture. On ne me parle plus du compteur Linky. Alors vous pouvez me dire ce que vous voulez, on a installé dans ma rue, mon voisin et moi on les a refusés de façon purement légale, et personne n'a pu nous l'imposer, et si vous essayez de le faire demain, je vous souhaite bien du plaisir.
Non, monsieur, moi, je ne ferai absolument rien qui pourrait vous
parce
être désagréable.
Je vais terminer mon propos.
Absolument votre
vous avez
position.
Remis ça à vos poseurs. Et ça, c'est absolument inadmissible. Quand on voit... Écoutez, ça, ce sont les directives qui sont données aux poseurs. On vous dit, porte ou portail fermé, mais le technicien dispose d'une clé. Remplacez le compteur normalement. Porte ou portail fermé, mais le technicien... cadenas, affiche sur le compteur ou coffret où la gaine est plombée. Ne pas tenir compte des affiches. Casser le cadenas, remplacer les compteurs. Accès au compteur à la copropriété impossible du fait d'un obstacle, portail fermé, à clé, grille fermée, etc. Tentez d'obtenir que le client ou un autre habitant du logement de la copropriété vous ouvre, recherchez la sonnette, toquez à la porte, si possible faire demi-tour. Compteur à considérer comme inaccessible, prise de rendez-vous nécessaire.
S'ils peuvent donnez-moi ce document.
C'est un document Enedis.
Ça pose un petit peu de problème, monsieur Méric, parce que c'est effectivement un document d'Enedis.
Moi, je suis pas...
Bien votre document,
sortent, je sais pas, monsieur, vous sortez des documents...
On a un reportage où il dit effectivement, mais ce document-là, depuis une mise aujourd'hui, on a changé notre fusil d'épaule. La preuve que non, ça continue. Donc il a reconnu que ce document revenait bien d'Enedis.
On va laisser la parole à monsieur Méric.
Devant la télévision.
Monsieur Méric, est-ce que c'est vrai, c'est un document que vous connaissez ?
Mais vous parlez d'un document que vos auditeurs ne peuvent pas voir, qui n'a
moi,
aucun
moi, je
caractère.
Le vois, ils peuvent me faire confiance, je
oui,
le vois.
Mais je ne suis pas là pour justifier un document d'Enedis. Moi, je suis là pour vous
parce
expliquer
vous
de quoi on parle.
Pourtant.
Je suis là pour vous dire qu'est-ce que c'est que ce compteur.
Est-ce qu'effectivement, il y a un comportement parfois
apporte,
des poseurs
et qu'est-ce
qui
qu'il
pas...
apporte de nouveau ? Je veux bien notamment répondre aux questions que vous avez posées, notamment sur les aspects sanitaires, aux questions que posent vos auditeurs. Je crois que c'est important que l'on puisse revenir à l'essentiel et qu'on s'apaise un petit peu, messieurs, parce que je sens beaucoup de rancœur ou de choses dans vos propos. Non, je voudrais plutôt être rappelé à vos auditeurs, Madame Zanon, que ce compteur, il est là, il apporte un certain nombre de nouveaux services.
Oh,
qu'il est mis à disposition de l'ensemble des clients, quel que soit le fournisseur, pour moderniser le réseau de distribution. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui me paraît essentiel, parce que vous me dites sensible aux aspects environnementaux notamment. Tout à l'heure, vous répondez par le recyclage. Mais il y a aussi les aspects développement des énergies renouvelables. Il y a aussi les aspects développement des véhicules électriques qui sont, je crois, aussi des sujets auxquels les Français s'intéressent. Si je reprends ces deux sujets...
Ça pourra communiquer avec...
Comment on fait aujourd'hui pour développer... par exemple, vous parliez tout à l'heure d'environnement. Loi de la transition énergétique. Alors, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'elle dit notamment sur un aspect ? C'est le développement de la production d'énergie renouvelable en France. Aujourd'hui, il y a en France, madame, 400 000 producteurs d'énergie renouvelable. Chacun peut être producteur. Il y en aura d'ici 10 ans plus d'un million. Pour réussir ce challenge, pour réussir ce pari que la loi propose, d'accord, il faut que le réseau de distribution d'électricité soit en capacité d'accueillir l'ensemble des énergies qui vont être produites. Et le compteur Linky va le permettre. De la même manière, le compteur Linky va permettre que chacun puisse disposer d'un véhicule électrique et surtout chacun puisse faire le plein de son véhicule électrique en toute sérénité. Si demain, dans une rue, vous avez une situation où tout le monde a un véhicule électrique et tout le monde se recharge en même temps, il peut se passer ce qui se passe chez vous lorsque vous allumez tout en même temps, c'est-à-dire ça saute. Eh bien, nous avons un système là qui permet, parce qu'il est communicant, de mieux gérer les flux d'électricité et de permettre que chacun puisse disposer en temps, en heure et en qualité et en sécurité de l'électricité dont il a besoin. Je crois que c'est aussi
Alors,
ça la transition énergétique.
J'ai une autre question. On demande s'il y a un changement de propriétaire. Est-ce que le nouvel acquéreur peut faire remplacer le compteur Linky par un ancien compteur ? C'est manifestement quelqu'un qui a acheté un appartement où il y avait déjà eu, parce qu'elle est de Paris, où il y avait déjà un changement de compteur et qui n'en veut pas. Ça, c'est pas possible.
Non, alors notre sens juridiquement, dans la mesure où même quelqu'un qui se l'est vu poser peut contester a posteriori, puisqu'on ne lui a pas demandé son consentement pour cet objet, qui, d'après Nedi, c'est bien plus qu'un compteur. Ce n'est pas juste un compteur. C'est un objet multifonction, c'est un ordinateur équipé d'un modem qui est équipé de capteurs. Et ça, en droit de la concurrence, en droit de la consommation, il faut l'accord du consommateur. Donc évidemment, une personne qui arrive dans un logement où il y a déjà ce compteur, elle ne peut être que dans une situation plus favorable par rapport à celle qui s'est vue imposer le compteur alors qu'elle était déjà dans ce logement. Donc oui, elle
alors
peut,
vous à
notre sens,
à
elle peut refuser ce compteur.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 700 clients, ça veut dire que... Parce que ça coûte cher de faire une action en justice. C'est des gens qui ont les moyens de faire une action. Comment ça se passe ?
Ça coûte cher de se battre, effectivement, contre Enedis, surtout. Et c'est 3000 euros habituellement à référer pour une personne. Et évidemment, là, on a un refus qui est massif de ce compteur. Les chiffres sont contestés. Il y a 59% qui apparaît dans tel rapport, 3% dans tel rapport.
Enfin, massif. Il y a 8 millions de compteurs qui ont été posés. Et là, vous parlez de...
On avait prévu à date 8 millions,
personnes.
Nous sommes à 8 millions.
Et des personnes qui sont prêtes à aller en justice. Nous, ce qu'on a proposé... Au départ, quelques personnes nous ont saisis. On leur a dit, attendez, ça concerne quand même beaucoup de personnes. On pourrait peut-être faire un peu comme un pot commun et partager les frais d'avocat. Donc, on a proposé que les gens puissent s'inscrire et participer à l'action en justice. C'est moyennant un forfait de base qui est de l'ordre de 48 euros. Et avec ce forfait-là, ils vont être défendus. Ils vont pouvoir demander au juge à ce que l'adversaire soit contraint, puisque l'adversaire ne prend pas en compte les refus qui lui sont notifiés, à ce que l'adversaire soit contraint par un juge, si le juge nous estime fondé, à démonter le compteur, ou tout du moins à le désactiver pour les personnes qui l'ont déjà, et pour celles qui ne l'ont pas, évidemment, à conserver l'ancien compteur.
Parce que là, on me redemande à nouveau, en disant que la réponse faite à l'antenne n'était pas claire, que faire si je veux revenir à un modèle antérieur ?
Aujourd'hui, Enedis dit qu'il n'y a pas de procédure, donc la seule
donc
procédure qui existe, c'est d'agir en justice.
D'accord.
Pour contraindre l'adversaire. et on a déjà obtenu avec un confrère à Auteuil. Ça, c'est important parce que Enedis dit que c'est pas possible. Il y a le... Je ne fais pas de publicité, je vais faire celle d'un confrère qui est au TGI de Grenoble qui a obtenu le retrait d'un compteur communicant pour des raisons de santé. Et Enedis, d'après cette décision, l'ordonnance de référé de septembre 2016, Enedis est contrainte de retirer ce compteur.
Alors, on voulait parler des questions sanitaires, monsieur Méric.
Oui, simplement pour répondre à monsieur, ce cas dont vous parlez, moi je ne suis pas spécialiste, vous êtes avocat, je ne le suis pas, mais simplement je sais qu'il y a un appel qui a été formulé sur le cas dont vous parlez. Monsieur Durand, vous devez le savoir, n'est-ce pas ? Là, vous ne me répondez plus, mais... Et puis, il y a, je crois qu'il faut aussi...
Je vais vous répondre, je ne veux pas vous interrompre.
Ah, très bien, je vous remercie. Voilà, donc, les aspects sanitaires, Madame Zanon, c'est ça ?
Oui, parce que là, on parlait d'un compteur qui avait été retiré pour question de santé. Il y a des inquiétudes aussi des auditeurs par rapport à ça.
Moi, je comprends.
On vit dans un environnement avec tellement d'ondes.
Bien sûr.
Donc, est-ce qu'effectivement, il peut y avoir des soucis pour certaines personnes? Est-ce que ça fait... Parce que la technologie est différente. Ça fonctionne par CPL, c'est cela?
Alors, il ne faut pas tout mélanger. Je crois qu'il faut rester dans les grandes lignes. Je veux bien vous parler de CPL. Ce que je veux dire, c'est que sur les aspects sanitaires...
Je crois que pour les aspects sanitaires, c'est le CPL qui est mis en cause, notamment.
Notamment.
On entend plein de choses. Donc, moi, sur les aspects sanitaires, je crois qu'il faut regarder les choses par rapport à ce que les spécialistes en disent. Il y a des spécialistes en France qui se sont intéressés à la question. Il y a notamment, sur les aspects techniques, l'Agence nationale des fréquences, qui est l'autorité en France sur l'aspect spectre des fréquences, sur tout ce qui est ondes électromagnétiques. Et puis, il y a surtout l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui est quand même l'agence qui protège les Français sur les aspects sanitaires, et qui ont tous les deux fait des rapports, fait des analyses et émis des conclusions qui sont très claires.
Qu'est-ce qu'elles disent ?
Je vous en prie. Continuez.
Vous voulez que je réponde ?
Vous posez les questions, répondez-y, monsieur, je vous en prie.
Très bien. Alors, l'ANSES n'a pas le même discours qu'Enedis. Elle ne dit pas que ce n'est pas dangereux. Elle dit, ce sont ses propres mots, que le risque pour la santé à court ou à long terme est peu vraisemblable. Et pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à dire que ce n'est pas dangereux ? Parce qu'il y a énormément d'études sur les champs électromagnétiques qui démontrent que dans certaines circonstances, les champs électromagnétiques sont dangereux. Et je vais continuer de citer l'ANSES, parce qu'avant que le business du Linky arrive, il y avait une pression moins importante sur ces considérations. Et l'ANSES, quand elle était l'AFSET, avait rendu, avant la fusion, donc, un rapport sur la bande de fréquence du Linky de 9 kHz à 400 MHz, donc au-delà, et donc le Linky est inclus. Les nouvelles fréquences qu'on ajoute dans les foyers français par le Linky de façon quasi permanente est inclus dans le raisonnement de l'ANSES. Et l'ANSES nous dit, l'ancienne AFSET nous dit, en raison de l'accroissement de l'exposition au rayonnement dans cette bande de fréquence, il est important d'entreprendre de nouvelles études. Ceci particulièrement pour des expositions chroniques de faible puissance. Le Linky, c'est pas autre chose. Ce sont des expositions chroniques, parce que c'est tout au long de la journée, et ça c'est le rapport du CSTB qui le prouve. Et à de faibles puissances, c'est ce que prétend Enedis. Ça reste encore à démontrer. Mais donc, même pour cette hypothèse-là, il va falloir confirmer la bonne adéquation des valeurs limites. Et l'ANSES ajoute, on note également quelques publications qui mentionnent des effets sur des systèmes cellulaires en division. On a tous des systèmes cellulaires en division qui mériteraient d'être poursuivis. Mais là, le problème, c'est qu'on installe ce foyer de force chez tous les gens qui n'en veulent pas, alors qu'on a cet avis de l'ANSES qui l'a contredit.
Je vais reprendre la parole des minutes. Je me posais la question, puisqu'en fait, certaines personnes n'en veulent pas et d'autres en veulent bien, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça sur la base du volontariat? Pourquoi est-ce que vous... Est-ce que ce ne serait pas possible techniquement que certaines personnes aient le compteur Linky chez eux et pas les autres?
Je crois qu'il faut
Parce que ça réglerait tous les problèmes.
Il faut revenir à la première question, une des premières questions que vous posiez, madame.
Parce qu'apparemment, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une directive européenne qui le rend obligatoire, parce qu'il y a des pays qui ont fait des choix différents.
Une directive européenne le rend obligatoire, et là, c'est surtout la traduction dans la législation française qui rend obligatoire le remplacement des compteurs. Le législateur a choisi de le faire ainsi. Alors, le texte, je peux vous le donner, monsieur, c'est l'article R341-4, 6 et 8 du Code de l'énergie, qui est la traduction.
Alors, lisez-le, le mot obligation n'est mentionné nulle part. Je l'ai sous les yeux.
Lisez-le alors, comme ça il n'y aura pas de polémique.
Je veux bien.
Déployer Linky, ni CPL,
c'est
ni
quand
obligation.
Vous voulez, hein. Ce texte dit simplement que les gestionnaires de réseaux d'électricité mettent en place des dispositifs de comptage conformes aux prescriptions de l'arrêté 341-6 qui prévoit les fonctionnalités de communication et qui donne ici l'ensemble des prescriptions et qui fait donc référence à la directive européenne. L'ensemble des éléments sont dans ces textes-là. Moi, je veux bien qu'on rentre dans les textes de loi, mais ça ne va pas répondre aux questions que se posent.
Si, parce que la notion d'obligation n'apparaît nulle part. Encore une fois.
Et je vais répondre. Donc, l'obligation, elle est faite à l'ensemble des citoyens français. Elle est faite, bien sûr, à Enedis, en tant que gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France. Et elle est faite à l'ensemble de ceux qui, à la fois, sont les utilisateurs et ceux qui fournissent le service de distribution d'électricité partout en France. Donc, c'est une obligation qui, en fait, s'impose à chacun d'entre nous à travers les textes de loi, à travers les directives européennes et leurs déclinaisons.
C'est dommage, je pensais avoir réglé votre... Votre problème de communication. Alors, on me redemande de redonner des coordonnées de l'association de défense. Alors,
tout ça
pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'association de défense au sens où c'est quelque chose. La défense, elle s'est faite de façon sporadique et spontanée.
Il y a plus de 1000 collectifs en France qui sont montés en l'espace de deux ans.
C'est ça.
Curieusement, il n'y a pas de contestation, mais il y a 1000 collectifs qui se sont montés. C'est peut-être qu'il y a quand même des gens qui sont
mécontents. Donc, on peut trouver facilement si on veut. Comment on fait?
C'est vrai que j'étais dans l'introduction de l'émission présenté comme représentant une association, ce qui n'est pas le cas. Je représente directement des consommateurs et les consommateurs peuvent nous rejoindre en s'inscrivant sur un site internet, c'est MySmartCap, c'est un site d'action collective qui permet de fédérer les consommateurs. Et j'ajoute un point, c'est que Enedis avait tout prévu dans cette affaire. Ils avaient prévu de convaincre le Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Ils avaient prévu de convaincre la Commission de régulation de l'énergie qui les a embêtés sur quelques petits points mais qui les soutient largement. J'en veux pour preuve les déclarations de la représentante de la CRE à l'audition au 14 décembre 2017 à l'Assemblée nationale. Il y a un point qu'Enedis n'avait pas prévu, c'était une contestation par le biais des actions en justice. Là, le pouvoir n'est pas ne peut pas être captif et donc ce sont les juges qui décideront si effectivement les consommateurs étaient bien fondés
ou pas.
C'est
la fin de l'émission, donc si vous voulez vous renseigner, on m'a envoyé la revue Nexus, magazine d'information indépendant, donc le numéro de janvier-février 2018, parle notamment des compteurs Linky. Vous avez un certain nombre de livres, La vérité sur les nouveaux compteurs communicants de Clotilde Duroux, aux éditions Charles d'Or, aux éditions Nicolas Bérard, Sexy Linky, et puis Le droit face aux ondes électromagnétiques aux éditions Lexi Nexi.
Permettez-moi de vous donner un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Je vous donne un numéro de téléphone qui est accessible partout en France, pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui souhaitent avoir des renseignements.
Enedis.
Oui, c'est Enedis. C'est le 0800 054 659. 08000 Linky. 0800 054 659.
Donc ça, si vous voulez appeler
Et vous aurez
Enedis.
Les agents d'Enedis directement au téléphone qui vous apporteront toutes les réponses, parce qu'on n'a pas pu en une heure de temps vous donner toutes les informations et qui vous apporteront toutes les informations et surtout pourront vous communiquer tous les documents.
Ce sera des informations non contradictoires.
Je pense
que les consommateurs se renseignent auprès d'Enedis d'une part
et vous avez des...
C'est pour ça que
sur internet vous trouverez en faisant Stop Linky, vous trouverez sans doute une association proche de chez vous.
Et je vais simplement vous dire que les valeurs du service public qui sont celles d'Enedis, qui sont celles des 39 000 agents d'Enedis, sont portées à la fois lorsque nous sommes, comme c'est le moment en ce moment sur les crues, sur l'ensemble de nos activités pour que tout le monde continue d'être alimenté, même lorsqu'il y a des crues, même lorsqu'il y a des tempêtes. Ce sont les mêmes gens qui aujourd'hui remplacent les compteurs et modernisent le réseau de distribution d'électricité pour l'intérêt de tous les consommateurs, de tous les clients.
On va arrêter là. Merci beaucoup.
Merci.
Vous étiez sur Fréquence Protestante, nous parlions des compteurs Linky.
Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort.